RMC, After Paris,
François Pinet.
Salut à tous, bienvenue dans After Paris. C'est déjà l'épisode 10 de cette saison. Et oui, merci de nous écouter en podcast, de nous regarder sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées et bien sûr sur YouTube. L'After Paris, le podcast de ceux qui ont aimé et puis détesté Kingsley Coman et de ceux qui ont détesté puis aimé Eric Choupo-Moting. Avec nous, Jimmy Brown. Salut Jimmy.
Salut François. Ouais, moi j'ai toujours aimé, malgré son but en finale Ligue des Champions, j'ai toujours aimé Kingsley Coman.
Arthur Perrault est là, salut Arthur.
Salut messieurs, bonjour à tous.
Et Fabrice Hawkins également, salut Fabrice.
Salut à tous.
Très heureux de te retrouver dans le podcast
très
After
content.
Paris.
Donc très là, content d'être là.
Normalement on a toujours un homme qui sait, là on a deux hommes qui savent dans le studio, c'est énorme.
Trois, trois, toi aussi.
C'est énorme. Non, on est à vous écouter des choses
aussi.
On vous écoute. Voilà, attention, faut pas louper cet épisode.
Et puis deux hommes qui vont suivre évidemment de très près le destin du PSG avant ce grand match. Hein, forcément,
oui.
On fait cet épisode avant PSG Bayern. C'est pour ça que j'ai cité deux joueurs qui sont passés par le Bayern et par le PSG.
Un bon choix.
Il y en a d'autres hein, d'ailleurs.
Oui.
Lesquels, vous les avez?
Lucas Hernandez.
Voici, bien joué. Lucas Hernandez qui est encore au PSG, tout à fait.
Qui a fait les deux.
Il y en a un autre.
PSG Bayern.
Il y en a un autre arrière gauche.
Arrière gauche.
Espagnol.
Bernat, exact. Oui.
Voilà.
Ça allait vite.
Épisode 10, pour tout vous dire, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude de nous entendre, on prépare ça quand même depuis le début de la semaine. On avait prévu de faire quelque chose sur Désiré Doué.
On a eu le nez creux. On l'a bien guigné.
Parce que malheureusement,
on évitera choisir Dembélé après le Bayern.
Voilà, hein. Il faut mieux éviter parce que malheureusement, il a fait l'actualité, mais dans le mauvais sens du terme, puisqu'il s'est blessé. Et on ne le reverra pas avant peut-être la fin d'année ou début janvier, hein, c'est ça.
C'est ça l'idée, c'est en tout cas sûr et certain un mois. Et ensuite, selon les avis, qu'ils soient optimistes ou plutôt pessimistes, on parle soit de fin décembre ou alors de début janvier.
Donc on a changé notre fusil d'épaule du coup pour parler de la gestion de ce turnover pour Luis Enrique. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le match contre Lorient pose question. Le PSG qui reste sur 3 matchs nuls lors des 4 dernières rencontres de Ligue 1. Match nul contre Lille, match nul contre Strasbourg, la victoire entre-temps à Brest et puis ce match nul donc face à Lorient. On sait que la philosophie de Luis Enrique c'est de faire tourner son effectif de toute façon, comme toutes les équipes qui jouent régulièrement et tous les 3 jours. Mais contre Lorient, au coup d'envoi, et après je vous laisse réagir, mais il y avait quand même cette composition d'équipe avec notamment un Zabarni plutôt placé côté droit, la place d'Hakimi qui était au repos. Il y avait fait confiance également à N'Djantou, à Zaïre Emery, à Mayoulou au milieu de terrain, donc respectivement 18, 19 et 19 ans.
Mbaye
était aussi titulaire également aux côtés de Dembélé et de Doué. Bref, et beaucoup, beaucoup de turnover. Est-ce qu'il est allé trop loin, Luis Enrique, dans ce turnover, Jimmy ?
Moi, je ne pense pas. On a beaucoup de débats à ce sujet avec Claire Dorian, qui vous le savez est un suiveur assidu du PSG, qui lui m'envoie à chaque compo, non mais c'est pas possible, etc. Et en fait, moi je défends l'idée que Paris est en train de vivre une saison qu'aucun club n'a jamais vécue avant. Donc ça, il faut quand même, une fois que tu pars de ce postulat-là, tu es obligé de t'adapter et de faire ce que fait Luis Enrique. C'est-à-dire que quand tu démarres une saison avec à peine 2 semaines de préparation entre la fin de saison d'avant et le premier match contre Tottenham en août dernier, tu ne peux pas faire autrement. En fait, tu es obligé de faire ta préparation physique, de ménager au maximum. Regarde, le pauvre Désiré Doué est un exemple. Il est revenu, il a essayé, on a pris pas mal de précautions avec lui.
Il a pris le temps. Ouais.
Alors le paradoxe, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, mais il a mis titulaire 3 fois de suite. Est-ce que c'était la meilleure idée ? Finalement, le seul avec qui il a pris un mini risque, on va dire, il a répété. C'est bien la preuve que tu te dois d'être ultra précautionneux. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que oui, le bilan comptable n'est pas très bon, mais oui aussi, tu es leader en Ligue 1, tu es leader en Ligue des Champions. À partir de là, c'est difficile de tomber sur Luis Enrique. Et tu as gagné, en plus, tu as validé cette stratégie-là à Barcelone, à travers un match où tu as joué avec pas mal de jeunes joueurs, pas mal de remplaçants, et tu es quand même allé gagner le match le plus important depuis le début de saison sur la pelouse du Barça. À partir de là, tu peux aussi voir le côté... là, on a dit, effectivement... Les résultats ne sont pas très bons. Il y a aussi des avantages à ce qu'est en train de faire Luis Enrique là. C'est qu'il y a des jeunes joueurs qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'accumuler de l'expérience.
Mais bon, je suis d'accord, les résultats ne sont pas bons. Le contenu n'est pas très bon.
Alors là où je peux mettre un petit bémol à cette analyse-là, c'est quand même, il y a des choix de poste qui sont un peu curieux. Moi, je n'ai pas compris Zabarni arrière-droit, par exemple, typiquement hier. Si t'as Marquinhos sur le terrain, il l'avait déjà fait. Ponctuellement, quand il était jeune à la Roma, il l'avait déjà fait. Il l'a mis une fois cette saison. Ça n'avait pas été une franche réussite. Mais à la limite, si tu dois mettre Marquinhos et Zabarni l'un à côté de l'autre, c'est plutôt Marquinhos à droite et Zabarni dans l'axe. On a vu que d'ailleurs Zabarni avait beaucoup souffert et le but vient de son côté.
Arthur.
En fait, je pense que pour aller encore plus loin que Jimmy, je pense que même Enrique pourrait encore plus procéder à ce turnover.
Carrément.
Ouais, je pense. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué et il n'y a pas tant de profondeur de banc que cela. Il y a quand même encore des Titi qui continuent d'émerger. Mais moi, je pense qu'en fait, on ne s'est toujours pas habitué à sa méthode de travail, en fait. Et lui le dit et le répète, c'est sa façon de fonctionner. De répartir le temps de jeu des uns et des autres. Par exemple, je peux vous dire qu'il y avait un doute avant le dernier match sur le fait que Warren Zaïre-Emery débute cette rencontre. Et en fait, on le sait maintenant, il y a des stats, le staff met des espèces de gilets aux joueurs à chaque séance d'entraînement, chaque match, pour mesurer un peu leur récupération et leur capacité à enchaîner. Il y a eu donc un doute pour Zaïre-Emery. Ils ont regardé ces chiffres et ils ont dit bah, finalement, on n'a pas de raison de douter, il peut enchaîner. C'est pour ça qu'il a été titularisé hier. Donc en fait, je pense que il faut qu'avec le temps,
donc c'est calculé, c'est ce que tu nous dis, c'est un turnover, mais c'est calculé. Il y a quand même tout, effectivement.
Mais depuis le début,
qui peut oser croire qu'il est
non,
en train
mais,
de jouer
c'est pas au doigt mouillé. Bien sûr, mais il pourrait se dire bon, lui, il a joué tant de temps, etc. Pas au doigt mouillé, mais de façon plus globale. Quoi.
Et je pense que dans cette méthode de travail,
là, vraiment, on cherche effectivement à savoir qui est le plus performant aussi aux entraînements, qui est le plus en forme.
Et je pense que dans cette méthode de travail, et je pense que Fabrice le sait mieux que quiconque, et c'est pour ça que lors du dernier mercato, Paris n'a pas été si actif que ça. C'est que pourquoi il n'y a pas de doublure au poste de latéral droit et que Zabarni, ça t'embête par exemple hier soir. C'est que imagine demain tu fais rentrer un joueur à ce poste-là qui arrive comme doublure, on lui dit bah voilà. Tu seras remplaçant de Zabarni ou remplaçant de la personne qui évolue habituellement à ce poste, Achraf Hakimi, et que cette personne le vive mal et que ça mette une mauvaise ambiance dans le groupe.
Oui, c'est
et
bah
là c'est pareil, tu te retrouves à gérer ton groupe différemment, à faire du bricolage un peu comme hier soir. C'est un exemple que je te donne.
Moi j'entends pas cet argument, mais je pense qu'on reviendra sur le mercato après. Moi je pense autant Luis Enrique sur ce qu'il fait avec l'effectif qu'il a à disposition, je le comprends, autant je pense que Paris aurait dû faire un mercato plus actif.
On en parlera bien sûr dans cet épisode. Je voudrais t'entendre, Fabrice, sur ce turnover. Nous, la question, c'est est-ce qu'il a atteint ses limites ? Parce qu'on le voit en Ligue 1, bah, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Alors peut-être que vous allez me dire, ok, c'est calculé, Luis Enrique, ce n'est pas ce qu'il importe le plus. De toute façon, la Ligue 1, le plus important, c'est le match contre le Bayern, par exemple.
Bah, c'est exactement ce que je vais te dire. En Ligue des Champions, les résultats sont bons.
Je te connais par cœur.
Non seulement ils sont performants, mais en plus ça joue bien. Dernier match, on a tous vu contre Leverkusen. Et tant que ça va tenir, tant que ça va aussi bien jouer en Ligue des Champions et surtout qu'ils vont continuer à gagner, il n'y aura absolument aucune panique au PSG. C'est-à-dire que très bien, dans le contenu, on aimerait un petit peu plus, sans doute, plus de victoires, un jeu peut-être un petit peu plus léché, parce qu'on sent parfois que soit ils ont le frein à main, soit ils n'arrivent pas à faire exactement ce qu'ils souhaitent, ou alors ils n'ont pas la même motivation qu'en Ligue des Champions. Mais le championnat, ils savent très bien qu'ils peuvent mettre un coup d'accélérateur en février-mars et rattraper le coup. Bah, malheureusement, quand on voit encore hier qu'ils ont perdu, enfin qu'ils ont fait match nul et que personne n'a réussi derrière à gagner et à profiter de ça, justement, ça les conforte.
Parce que Marseille
mais ça les conforte dans cette position-là.
Bah,
on aura peut-être un autre discours. Oui, on peut refaire le monde avec des si. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, quand Paris ne gagne pas, les autres derrière ne gagnent pas. Ils sont tranquilles en Ligue des Champions, ils sont premiers. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se...
Y a pas de... Donc ils ne jouent pas avec le feu. Luis Enrique.
Il joue pas avec le feu, étant donné l'adversité que tu as en Ligue 1. Malheureusement, c'est un fait. Fabrice a raison de le dire. C'est-à-dire que si effectivement Marseille avait fait carton plein depuis le début de saison, en plus Marseille avait réussi à battre le PSG, et c'est peut-être. Voilà, moi, s'il y a un seul point noir dans ce turnover depuis le début de saison, c'est que moi, je fais partie de ceux qui digèrent pas, voilà, même si on avait passé un peu inaperçu cette défaite-là, étant donné qu'il y avait le ballon d'or de Dembélé
le même jour.
Oui, mais voilà, quand t'es suiveur du PSG, perdre à Marseille de la main, c'est jamais agréable, et je pense que ça reste une petite tâche sur ce début de saison. Mais Marseille, malgré cette victoire-là, n'a pas réussi à faire carton plein, laisse échapper des points. C'est le cas des autres concurrents aussi. Monaco, ils ont été en grande difficulté. Là, ça commence à revenir un petit peu. Donc le jour où tu te retrouves à 4-5 points, où il y a un petit écart et qu'il faut mettre un coup d'accélérateur, là tu peux rediscuter. Mais aujourd'hui, franchement, qu'est-ce que
le débat serait pas le même. Si Marseille était premier avec 6 points d'avance, le débat serait pas le même.
Pas de feu dans la maison. Pas de feu, ok.
Tu t'adaptes aussi à l'adversité que tu as, je pense.
Alors, on a bien compris que c'était dû à cette préparation très particulière, mais est-ce que c'est aussi le calcul de Luis Enrique ? Bon, on a vu que ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait un turnover aussi pour pourquoi pas dégager une équipe type. Ou alors, est-ce que l'équipe type, c'est celle qui a joué la finale de Ligue des Champions et on n'y touchera pas.
Aujourd'hui, tu penses que tu peux bouger ? Moi, j'imagine mal une équipe qui a marché sur l'Europe sur les 6 derniers mois.
Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils cherchent. Et notamment, tu parles de tentative de mettre des joueurs à certains postes,
oui, alors à la marge, cette devant, volonté à droite,
bah, voilà, non mais pas que à la marge, parce que effectivement il a fait jouer Mayulu à quasiment à tous les postes, au milieu, en numéro 9, à droite.
Oui, mais c'est pas un titulaire aujourd'hui Mayulu, c'est né Mayulu aujourd'hui, c'est un joueur qui veut amener au plus haut niveau, et il croit énormément en Séné Mayulu. C'est d'ailleurs pour ça que l'été dernier, quand on lui a proposé des joueurs comme Rodrigo Mora et on l'avait sorti sur RMC Sport par exemple, lui a préféré rester vraiment sur Séné Mayulu. Mais à l'heure où on parle, si demain il y a une finale à jouer, il ne va pas démarrer Séné Mayulu dans quelques années. Sans doute qu'il va démarrer. Et s'il reste, ce sera sans doute l'un des joueurs importants au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce que souhaite la direction. Mais aujourd'hui, comme le
Donc,
disait Jimmy, si y a un match important, le 11, on le connaît.
On retrouvera le même 11 à partir du mois de.
À part si Barcola, il est vraiment au top et qu'il prend la place dans les trois.
Et tout l'enjeu justement de la gestion actuelle, c'est d'arriver avec les mecs en forme au moment où ça va devenir important, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, voire même en Coupe de France. C'est mois de mars, février, mars, tout le monde à fond, éviter les blessures à ce moment-là et faire en sorte que les joueurs arrivent le mieux possible.
Si on voit autant de jeunes, en fait, en réalité, si on voit autant de jeunes jouer, après, Luis Enrique, les appétences pour ça aussi, il sait faire, mais si on en voit autant, c'est parce que, comme le disait Jimmy encore une fois, je te reprends beaucoup, Jimmy, t'es excellent. Il y a un manque au niveau du banc, la profondeur n'est pas suffisante, ouais. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il est obligé de lancer des jeunes U19 comme ça.
On va parler des jeunes, du mercato, tu avais un mot à rajouter peut-être Arthur?
Oui, mais en fait c'est, et je sais que certains joueurs se le disent, c'est pas plus mal de se blesser maintenant, hein. Ce qui est la véritable, le vrai début de la dernière ligne droite, c'est février, mars, il y a encore un peu de temps d'ici là, et j'ai envie de dire que dans son malheur, Désiré Doué risque de revenir à 100%, je croise les doigts,
au meilleur moment.
Voilà, exactement, au meilleur moment, sauf
là où on l'attend en fait, hein, et là où c'est possible de renverser des saisons et de gagner des trophées.
Alors, on a vu passer, hein, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les différentes compositions d'équipe, parfois qui ressemblent quand même à des expérimentations de la part de Luis Enrique. On le dit, entre Strasbourg et le Bayer Leverkusen, il y a eu 5 changements, un peu moins entre le Bayer Leverkusen et Brest, 2 changements. Ça correspond d'ailleurs à une victoire de Brest 3-0, hein, enfin de PSG Brest, 3-0 à Brest. Ouais. Et puis, il y a eu 7 changements entre Brest et Lorient. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Ensuite, il y a Nice qui arrive avant le match face au Bayern. Donc forcément, effectivement, il met en concurrence. Mais est-ce que, je sais, on a loué le côté imprévisible de ce Paris Saint-Germain-là. Donc on va pas faire un épisode pour dire l'inverse une semaine après. Mais est-ce que ça ne peut pas perturber certains joueurs d'être quand même baladés de poste en poste, de ne pas avoir justement une continuité
C'est une évidence que Zabarni, tu ne l'as pas rendu service hier. Déjà qu'il est en difficulté dans l'axe. Tu le mets arrière-droit hier où il n'a quasiment pas de repère et il sort ce match-là. Donc oui, évidemment que tu le rends pas service. Beraldo qui est toujours... qui se plaint de son temps de jeu, mais qui en même temps, à chaque fois qu'il joue... Et jamais très souverain, tu lui mets un autre partenaire à côté de lui à chaque fois. Un coup c'est Marquinhos, un coup c'est Zabarni.
Ça n'aide pas, quand même.
Ça n'aide pas, bien sûr. Ça c'est une évidence. Le petit Mbaye devant, c'est pareil. Mais bon, en même temps, c'est inespéré pour ces jeunes-là. En fait, il faut distinguer, je pense, d'un côté les jeunes et de l'autre les joueurs un peu plus aguerris.
Djantou au milieu, c'est très bien. Mais là, par exemple, contre Lorient, il y a à côté de lui Warren Zaïre-Emery, bon, qui est jeune, mais voilà, un peu plus expérimenté. Mais c'est pas non plus un cadre.
Ça, c'était ça.
Et Mayulu, oui, mais c'est non, pas mais... l'aider.
En fait, je pense que pour rebondir sur ta question, déjà l'année dernière c'était le cas. Et j'ai l'impression que ça surprend tout le monde qu'on reparte sur la même dynamique, sur le fait qu'il y ait des expérimentations, que des fois sur certains matchs on soit surpris.
J'ai l'impression que c'est un peu plus poussé quand même, Arthur, cette saison.
De par la structure de l'effectif et de par les blessures.
On a eu des soirs l'année dernière, on a aussi été surpris, vraiment, crois-moi. Et deuxième chose, et j'ose espérer qu'ils sont bien au courant, que ces joueurs-là que tu viens de citer, les Zabarni, les Mbaye, quand ils montent avec l'équipe première pour Mbaye, ils sont au courant que Luis Enrique, il va les utiliser parce qu'ils sont très modulables. Et qui va pouvoir les mettre au milieu à gauche, attaquant droit, latéral droit. J'ose espérer qu'ils sont au courant que voilà, on va leur demander un peu tout et n'importe quoi entre guillemets.
Bon, on va revenir dans un instant. Deuxième partie d'After Paris. Vous restez bien sûr avec nous. On continue de parler de ces choix de Luis Enrique. On va parler des jeunes dans quelques instants et puis du mercato qui a peut-être été un peu trop léger. À tout de suite. After Paris, deuxième partie avec Jimmy Brown, avec Fabrice Hawkins, avec Arthur Perrault. On sort l'artillerie lourde avant le match contre le Bayern, évidemment,
c'est
pour cet épisode
match
de l'After Paris. Pour continuer à parler de cette histoire de Luis Enrique et du turnover, est-ce qu'il a atteint ses limites? Je vous propose d'écouter justement Luis Enrique sur sa philosophie. Bon, on la connaît par cœur, la concurrence partout, tout le temps, en quelque sorte.
Ça dépend. Ton performance aujourd'hui, c'est OK. Demain, on va voir. Personne à son position fixe ou sur pendant toute la saison, et ça dépend de ton niveau, et ça dépend de ce que nous pensons que c'est le meilleur pour l'équipe.
Voilà, le meilleur pour l'équipe, ça dépend du niveau. Bref, il fait des choix, forcément, oui, en fonction de son équipe.
C'est un peu quand même langue de bois, parce qu'en fait, la concurrence l'année dernière, à un moment donné, une fois que tu avais dégagé ton 11, c'était ton 11 qui était sur le terrain.
C'est là-dessus que je voulais vous entendre.
Et ça bougeait pas. Là, il le dit, parce qu'effectivement, avec les absents qu'il a, et avec le, il est contraint de le faire un petit peu, ce turnover. Donc, il veut mobiliser tout le monde, il veut concerner tout le monde. Donc, forcément, dans sa com, il dit oui, tout le monde a une place à jouer, a quelque chose à gagner dans cet effectif. Alors que tu sais très bien que le jour où Vitinha, Ruiz, João Neves, ils sont à 100%, oui, mais... je peux monter, descendre, ce sera Vitinha, Ruiz, João Neves.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais tout de même, il faut quand même souligner que c'est peut-être l'un des seuls entraîneurs qui a peut-être un 11 type, et c'est normal, c'est des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions, qui ont prouvé, aujourd'hui qui ont beaucoup d'expérience. Mais, et ça, il faut le mettre à son crédit, quand un joueur est performant à l'entraînement, quand il montre aussi en match, il peut venir un peu bousculer la hiérarchie. Et c'est peut-être l'un des seuls entraîneurs, en tout cas dans les grands championnats et dans les grands clubs, où on sent vraiment que mine de rien, même s'il y a un schéma et des joueurs qui sont qui ont un statut et qui sont titulaires indiscutables, ça peut quand même un peu bouger.
Justement, on voulait parler des jeunes parce qu'ils ont quand même leur chance. On va voir les statistiques, je vais vous les donner pour ceux qui nous écoutent. Mais par exemple, le jeune Mbaye dont on a parlé, 17 ans seulement, déjà 13 matchs, 6 titularisations, pas de but, pas de passe décisive pour lui. L'autre jeune que l'on voit beaucoup, c'est Seni Mayulu, bien sûr, 19 ans, 10 matchs, 8 titularisations, 2 buts et une passe D pour lui depuis le début de la saison. Et puis Quentin Ndjantou, qu'on a découvert véritablement cette saison, 18 ans, 7 matchs, dont 2 titularisations pour ces 3 jeunes. Alors, évidemment, on en a un, c'est Seni Mayulu, qu'on a beaucoup vu déjà la
on
saison dernière.
Déjà retirer cette case des jeunes.
Qui est déjà peut-être...
L'excellent Seni Mayulu.
Voilà, qui est déjà peut-être un élément important du groupe. Il y a peut-être, la question, je vous la pose vraiment très clairement, est-ce qu'ils ont le niveau justement pour permettre à ce turnover de fonctionner?
Déjà pour Mayulu, à l'échelle de l'effectif parisien, étant donné la structure de l'effectif, il est 13e, 14e choix. Hein. Ouais. Enfin, il fait partie déjà de ceux qui postulent là-dessus, juste après le 11 type. Pour les deux autres, moi, je suis un peu déçu par Mbaye, honnêtement, parce que j'en ai tellement entendu de bien de ce gamin-là quand il était en jeune, etc. Tout le monde disait que oui, ça allait être le prochain, et surtout quand tu vois le temps de jeu que lui accorde Luis Enrique, qui est quand même considérable, à un poste où finalement. C'est pas le poste où t'es le plus dépourvu, c'est-à-dire que tu pourrais donner un peu plus à Lee, à installer Lee sur un côté comme il a pu le faire précédemment. T'as quand même les options Barcola, Guevara, etc. qui est revenu. Il joue quand même pas mal, Mbaye, et j'arrive. C'est dommage. Je pense qu'il gagnerait comme tous les attaquants finalement, à se débloquer un peu, à réussir peut-être une première action décisive pour qu'on en voit un peu plus de sa part. Jusqu'à présent. Alors c'est très entre guillemets scolaire, mais là c'est le jeu de Luis Enrique, quoi. Il colle beaucoup à la ligne, etc. Il fait des efforts, il démérite pas. Mais quand il s'agit d'être impactant dans les zones de vérité, il n'arrive pas trop pour le moment.
Après, il est jeune.
Il est très jeune.
Il va avoir 18 ans, il va avoir la majorité le 24 janvier prochain. Ibrahim Mbaye, il faut être patient.
Je connais toutes les dates de naissance.
C'est l'encyclopédie, oulala.
Il faut être patient encore un petit peu avec lui, même si je souscris à ce que tu dis. Et je pense que même lui sait qu'il doit faire plus dans ce collectif-là. Après, pour revenir sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, ce qui peut lui faire défaut, lui comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup de jeunes. Ils jouent tous en même temps. Et c'est peut-être plus facile d'incorporer ce type d'équipe-là quand on a une ossature d'équipe type avec un ou deux jeunes.
Bah oui,
là,
c'est ce que je disais tout à l'heure.
5 et parfois, ouais, ça
c'est
peut
pas forcément.
Mais pour le cas d'Mbaye, il a pu jouer quand même avec une équipe un peu plus type sur ses 7 matchs. Il n'y a pas tout le temps, tu vois.
Ndjantou
qui lui est arrivé sur des équipes pour le coup très hybrides. Et ben moi, Ndjantou, il me fait toujours bonne impression en fait. Ouais, j'aime bien ce gamin-là.
Ce qui est frustrant, et ce que Jimmy a raison, c'est qu'au vu de leur position, quand Ndjantou est un 9 de formation, si je dis pas de bêtises, il joue plutôt en milieu offensif avec Enrique. Et Mbaye joue souvent attaquant gauche. C'est des joueurs qui sont censés faire des différences et qui se retrouve plus à se transformer en travailleur de l'ombre, entre guillemets, j'ai envie de dire. Ils font les efforts, mais ils font le repli.
Alors que lui, pour le coup, encore une fois, Mbaye a sa décharge. Lui, il joue à son poste de prédilection.
Il est vraiment à son poste.
Il joue soit les droits, soit les gauches.
C'est peut-être pour ça qu'on est un peu frustré, un peu trop exigeant avec eux aujourd'hui. C'est que, au vu de leur position, on en attend plus. Je rajouterais Mathis Jeangel aussi, qu'on a vu monter de temps en temps avec l'équipe première et qui évolue avec la Youth League.
Tu vois, pour pousser le truc, moi j'aurais bien aimé voir le gamin, pardon, Fabrice, Boli arrière droit. tu vois, quand tu pour mettre Zabarni, pourquoi tu fais. J'aurais bien aimé le voir lui.
Il continue de faire ses gammes en Youth League, ça va arriver aussi.
Il va arriver tranquille.
Mais t'as bien compris qu'en Ligue 1, t'avais la marge de faire jouer des gamins.
Déjà, que des jeunes. Si en plus on commence à mettre ceux de 16 ans, on va se retrouver avec les U16.
Un Boli qui brille au PSG, ça serait formidable.
On a Yannick Boli, je te rappelle.
Oui.
Yannick Boli, décisif en Coupe de France.
Je pensais à des Boli plus célèbres.
Oui, non, j'ai bien compris.
Pour Mbaye, en tout cas, je pense que cette saison, elle va être vraiment importante pour lui, notamment parce que s'il n'arrive pas à démontrer tout le potentiel qu'il a pu montrer, notamment en U19, je pense qu'il va finir par réussir, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est talentueux. Mais derrière, vous savez comment c'est, hein, c'est le jour où il y aura des mauvais résultats. Ah, ils vont recruter
et
à ce poste-là.
Justement, passe décisive de Fabrice Hawkins, puisqu'on va parler du mercato. Et ça, c'est intéressant. S'il joue autant, c'est parce que le mercato a quand même été plutôt léger du côté du Paris Saint-Germain. Et donc, ça remet peut-être en question ce turnover vraiment important du côté de Luis Enrique, puisque forcément, il est rendu quasiment obligatoire, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Oui, il faut ça, dire les choses
voulu.
Comme ça.
Oui, mais ça, ils l'ont voulu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu recruter quelqu'un en plus devant, quelqu'un en plus au milieu. Ils ont voulu
quelqu'un
vraiment
en plus au poste de latéral aussi.
Ça, après, ils ont expliqué. Et Luis Campos sur l'antenne d'RMC et Luis Enrique.
Deuxième passe décisive de Fabrice Hawkins, il est en grande forme. On va écouter Luis Enrique, justement, par rapport à Hakimi et son souhait de ne pas recruter derrière droit, derrière Hakimi. C'est très clair.
Sans aucun doute, les meilleurs latérales droit au monde. Pour moi, et c'est pour ça que nous ne signons pas un latéral droit, parce qu'il joue tous les matchs. Si tu prends un joueur, un latéral droit, que tout le monde parle qu'il faut un latéral droit, tu dois payer beaucoup d'argent pour un latéral droit qui va être suppléant et qui va jouer 3 matchs et qu'il sera démotivé. Nous cherchons de voir les choses de manière différente et de profiter de cet joueur, mais en même temps d'avoir des possibilités dans l'académie, dans l'équipe. Et je pense que c'est la meilleure de les manières pour être performant pendant toute la saison.
Voilà, la meilleure des manières pour être performant toute la saison, donc faire monter aussi des jeunes de l'académie, ça il le dit clairement, Luis Enrique, plutôt que de recruter quelqu'un qui fera des bouts de match. Ou qui
exactement, et je trouve, et c'est très important, qu'on ne souligne pas assez les difficultés qu'a pu avoir le Paris Saint-Germain sur le mercato dernier, de recruter des joueurs pour se renforcer à certains postes. Il explique très bien, Luis Enrique, c'est compliqué d'attirer un joueur qui est performant, qui va rentrer dans la philosophie de jeu de ce qu'il souhaite, et qui va être remplaçant, qui va jouer des bouts de match, un joueur de très haut niveau. Et aussi bien, ça s'applique à ce poste d'arrière droit, ça s'applique aussi devant. Quel discours vous allez tenir à un joueur que vous voulez recruter, sachant que vous avez Barcola qui est sur le banc déjà, et qui a, sur les gros matchs en tout cas, et qui a Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. C'est-à-dire que vous allez recruter un joueur, forcément, vous le recrutez au Paris Saint-Germain, c'est un top joueur, qui va coûter cher, et en plus qui va faire banquette. C'est très compliqué de recruter quand on est champion d'Europe, il faut le dire aussi.
Oui, mais moi je pense que c'est aussi le boulot de Luis Campos. On a suffisamment loué son travail sur les différentes recrues qui ont pu arriver pour souligner que tu dois, c'est aussi lui qui doit aller chercher des profils jeunes, comme il a pu le faire dans ses clubs précédents, qui peuvent émerger au PSG. Peut-être qu'au PSG, on a été refroidi par la double expérience Beraldo-Moscardo, qui avait ces profils-là, et qui finalement, Moscardo, il joue même pas à Reims. Et Beraldo, on voit à quel point c'est difficile. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il sorte un jeune latéral droit, qui vient pour apprendre,
mais
pour
Boli,
progresser.
Boli, là, tu nous as dit.
Boli, comme tu dis, il a 16 piges. Mais,
oui,
mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de prendre des joueurs ultra confirmés, tu vois. Tu peux prendre des jeunes qui sont en voie de développement,
mais
qui acceptent de venir apprendre.
Mais le problème, c'est que tu prends des jeunes, mais on en a parlé. Tu prends des jeunes, quel message tu envoies à Séné Mayoulou que tu veux prolonger, à Quentin Djantou qui arrive, à Ibrahim
Tu leur envoies le message que t'es dans un club de très haut niveau, et que dans un club de très haut niveau, tous les postes sont doublés à minima, et qu'il y a de la place.
Là, tu vas les tripler.
Non, pour moi, Hakimi, son poste, il est pas doublé, par exemple.
Hakimi, c'est une exception.
On en revient à la vie du groupe aussi, avec des éléments qui peuvent arriver et finir par.
Et après, c'est des questions de philosophie, c'est-à-dire que Luis Enrique, lui, il pense ça, c'est le discours qui tient, que ça va bousculer la vie de groupe, etc. T'as d'autres entraîneurs qui te disent que quand tu gagnes, il faut régénérer au moins 20-30% de l'effectif pour continuer à avoir la dalle, pour continuer à gagner. Là, le PSG, c'est un effectif globalement jeune, donc lui, il te dit bah, moi je préfère garder ma structure actuelle et pas bousculer les équilibres que j'ai dans mon vestiaire. Écoute, on verra, hein. Pour l'instant, moi je le disais en introduction, pour l'instant tu peux pas lui tomber dessus, il est premier de Ligue 1, premier en Ligue des Champions. L'avenir nous dira si ils ont fait le bon choix ou pas.
En sachant
que
tu as
quand même un mercato d'ajustement.
Et ben justement, mercato d'ajustement, puisqu'on a les Arthur et Fabrice qui surveillent ça de très près, le mercato
parisien. Ils ont tous les noms sur leurs écrans de téléphone.
Non, mais hein, est-ce que ce mercato va...
C'est la vérité.
Est-ce que ce mercato peut être quand même utile au PSG, on va le dire comme ça. Est-ce que il y a quand même des choses au club,
en fait, la difficulté pour répondre à cette question, c'est-à-dire que Luis Campos, il a toujours une liste établie sur tous les postes. Mmh. Et c'est-à-dire que j'ai appris aujourd'hui par exemple que Ilya Zabarni, les premiers contacts ont été noués en octobre 2024. Donc c'est-à-dire que il y a de la part de Luis Campos une volonté d'anticiper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, il a une liste de joueurs pour à peu près tous les postes. Maintenant, est-ce qu'il va utiliser...
J'adore, pardon, c'est formidable. En octobre 2024, il a signé en août à l'arrache.
Non, non, exactement, mais ils ont commencé à pisser.
C'est formidable. On bosse longtemps en amont, etc. Et tu finis, t'as 8 pistes, etc. Tu finis par le mec que t'avais depuis octobre et tu le fais signer fin août.
Mais au prix que tu veux. Oui, mais au prix que tu veux. Ah non, mais c'est très intéressant. 60 plus bonus. 60
ah ouais, c'est vrai que c'est cadeau. C'est vrai que c'est cadeau pour Zabarni. Pardon. C'est vrai que l'argument, il m'a su. 60 plus bonus pour Zabarni, on a fait l'affaire du siècle.
Je vous le dis, le Paris Saint-Germain, il y a 2 ans, il aurait payé 70 minimum.
Ah ouais, encore un peu plus.
Ah oui. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils arrivent quand même à payer au juste prix.
Donc, ils anticipent.
C'est quand même intéressant.
Donc, ça veut dire que peut-être qu'ils ont anticipé, ils ont vu des joueurs pour le mercato à venir il y a 2-3 ans. Là,
non, mais ça veut dire surtout qu'ils ont des noms, il y a des possibilités d'activer si jamais ils sentent qu'ils ont le besoin, mais dire aujourd'hui ils vont recruter à tel ou tel poste, ça me paraît tout à fait prématuré. Même si tu veux mon avis, moi je pense qu'ils vont s'intéresser au poste d'attaquant, je pense qu'ils vont regarder très sérieusement.
D'accord. Ce qui t'explique, c'est que sur leur téléphone, ils ont les noms du mercato 2028. Non, là, t'as déjà les mecs qui vont signer dans 3 ans.
Je te dis que je l'ai appris aujourd'hui. Pour...
Il y a un temps de latence quand même.
Bon, ça sera l'objet d'un autre épisode. Ça. On va faire ça, le mercato parisien, et vous nous donnerez tous les noms. Voilà, d'accord, tout, la liste de Luis Campos.
Rien il n'a pas le droit. Il a pas le droit. Les conversations verrouillées sur le téléphone. Moi, depuis tout à l'heure, j'essaie
ça s'appelle du teasing. C'est
d'accord,
pour
ce soir, Luis Campos, elle est verrouillée. On peut pas l'avoir.
Pour s'abonner. Abonnez-vous parce qu'il y aura peut-être la liste de Luis Campos.
Mais non, mais de toute façon, ça va gagner. Contre le Bayern, il n'y aura plus aucun. Et tu vois, ce podcast-là sera obsolète. Écoutez-le bien. Voilà. Écoutez-le bien cette semaine, parce que dans une semaine, c'est obsolète. Tout est formidable au PSG.
C'est
maintenant qu'il faut écouter.
Ça sera l'épisode 11 d'After Paris avec Jimmy, sans doute. Merci beaucoup, Jimmy.
Merci à vous, les gars.
Merci, Fabrice. Merci, Arthur. Vous avez été parfait, évidemment. Vous l'avez compris. Pense à t'abonner au podcast. Pense à t'abonner aussi sur la chaîne YouTube de l'After pour ne rien rater de ces After Paris, puisque la semaine prochaine, vous l'avez compris, ça sera après un certain PSG Bayern. On risque d'en reparler. Très bonne journée et puis à très bientôt. Ciao.
RMC After Paris.